Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Audrey Vasseur, Eric Bauer, Virginie, Jean Herry, Marine Bonnemère et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, Le Coin du Crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Dans le département des Bouches-du-Rhône, à quelques kilomètres d'Avignon, habite une famille recomposée. Le mari s'appelle Jean-Christophe Lejard. Il a 48 ans et sa femme, Roselyne Pinchot, en a 57. Dans leur grand-mât à Rognona, ils vivent avec Romuald, le fils de Roselyne, né d'une première union, et Christopher, leur fils. L'épouse est femme au foyer et l'époux est chef d'entreprise. Ils sont riches et mènent un train de vie confortable jusqu'à ce qu'un jour, leur existence soit complètement chamboulée. Étrangement, un incident aussi tragique que mystérieux viendra détruire leur foyer à jamais. Venez découvrir avec moi les ficelles de cette intrigue digne des plus grands films à suspense. Née en 1956, Roselyne Pinchot est une femme à fort caractère. Ambitieuse et audacieuse, elle sait ce qu'elle veut et déploie tous les moyens pour l'obtenir. À l'âge de 19 ans, elle a été la plus jeune infirmière de France. Elle s'est fait un patrimoine conséquent, des biens immobiliers et un compte en banque bien garni. D'un premier mariage, elle a eu deux garçons, Arnaud et Romuald. À 27 ans, elle divorce et s'installe dans l'Orne, en Normandie. Avec deux enfants à charge, cette femme solide comme un roc prend sa vie en main et s'engage dans un hôpital. Pour réaménager sa nouvelle demeure, elle fait appel à différents professionnels qui l'aideront à retaper la maison. Parmi eux, un jeune homme, du nom de Christophe Lejard, âgé de 18 ans, lui plaît. C'est un petit ouvrier qui vit de petits travaux de maçonnerie. Il est célibataire et semble intéressé par la jeune femme. Petit à petit, la relation entre Roselyne et Christophe se développe et ils commencent à se fréquenter. Ainsi, une histoire d'amour ardente naît et en 1984, les deux tourtereaux se marient et nagent dans le bonheur absolu. Un an plus tard, leur fils Christopher naît et leur famille grandit. Certes, le mari est au chômage, mais il a toute la vie devant lui pour réussir et faire ses marques. Il ne travaille presque jamais, mais sa femme est toujours là pour le soutenir financièrement et sans retenue. Depuis leur mariage, Roselyne travaille de nuit à l'hôpital, tandis que Christophe reste à la maison et s'occupe des enfants. Dans un souci constant de ne pas manquer d'argent, elle enchaîne les gardes. En plus de son travail, cette femme courageuse et vigoureuse prend soin de son foyer, de ses enfants et de son conjoint sans jamais se plaindre. Au début de leur mariage, les deux époux mènent une vie paisible et se sentent heureux en ménage. Cependant, les problèmes ne vont pas tarder à commencer. En fait, la relation entre l'un des enfants de Roselyne, Arnaud, et Christophe n'est pas au beau fixe. Le jeune garçon ne supporte pas la présence de ce beau-père et les choses ne s'arrangent pas avec le temps. Au contraire, à l'adolescence, Arnaud se révèle très désobéissant et accepte encore moins l'autorité d'un homme qui n'est pas son père. Rebelle et incorrigible, il a souvent des problèmes avec les autorités et a de mauvaises fréquentations. En fin de compte, son rapport avec Christophe devient très conflictuel. Pour sauver son couple, Roselyne se sépare de son fils. Elle le confie à son ex-mari, puis à sa sœur et enfin à sa mère. Délaissé, l'enfant se sent rejeté et reproche à sa mère de choisir son jeune époux plutôt que lui. En 2000, Christophe Lejard trouve une bonne opportunité d'emploi au sein d'une menuiserie spécialisée dans les portes et fenêtres, située dans le sud de la France, à Montfavet, près d'Avignon. Fou de joie, il annonce la nouvelle à son épouse et lui demande de partir avec lui ainsi que les enfants. Par amour, Roselyne accepte et laisse tout derrière elle. Elle abandonne son travail, sa famille et ses amis pour suivre son mari à l'autre bout du pays. Toute la famille emménage alors à Rognona, dans un grand mât sur la route de Montagnette, que le couple restaure pierre par pierre. Très vite, le jeune ouvrier monte les échelons. D'un employé lambda, il va bientôt devenir chef d'entreprise. La société MFV où il travaille est mise en vente et Christophe compte participer à son rachat. D'ailleurs, c'est Roselyne qui lui fournit les fonds d'investissement nécessaires pour l'acquisition des parts. Travailleur infatigable, il contribue à l'essor de sa société tandis que Roselyne continue à l'aider financièrement pour des apports en capital. Le projet du jeune homme connaît un vrai succès, mais son mariage bat de l'aile. Depuis le lancement réussi du projet, Roselyne a totalement changé. Tout d'un coup, cette femme qui a toujours été active et pleine d'énergie se retrouve à la retraite anticipée, mise sur la touche, alors que son compagnon prospère en affaires. Elle devient aigrie, un mauvais caractère et manifeste un tempérament colérique en permanence. Sèche, vénale, antipathique, la mère de famille devient insupportable pour son entourage. Son attitude constamment hostile fait fuir tout son entourage, en particulier son mari, qui ne sait pas pourquoi sa femme se comporte ainsi. Dans son environnement professionnel, comme dans sa vie privée, Christophe Lejar choisit toujours d'éviter les conflits. C'est un homme aimable, apprécié de tous, ses voisins, ses amis et ses employés. Tout le monde trouve que c'est un patron atypique, convivial et très proche de ses collaborateurs. Néanmoins, malgré sa bonté et sa bienveillance envers les siens, il a beaucoup de difficultés à gérer sa vie conjugale. À la maison, c'est l'enfer au quotidien. Sa conjointe veut tout garder sous son contrôle et elle n'admet pas qu'on la contrarie. Elle devient de plus en plus hargneuse envers lui. Impulsive, autoritaire, elle le repousse avec ses agissements offensifs et toute tentative de remédier à cette situation chaotique semble vaine. Apparemment, il n'y a plus rien à faire pour sauver son couple. A-t-il mal choisi sa compagne ? Christophe se le demande. Après de longues années de vie commune, il est désemparé et se sent seul. Si seul qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, certainement pour échapper à la dure réalité. Sur Facebook, il cherche d'anciens copains ou de bonnes vieilles connaissances quand, en mai 2010, il tombe sur une amie d'enfance, une certaine Liliane Berger. Content de la retrouver, il la contacte et renoue d'amitié avec elle. Âgée de 51 ans, elle est coiffeuse à Montpellier et vit seule depuis son divorce, qui date d'il y a 18 ans. Au début, leur relation est purement amicale, sans arrière-pensée. Ils se rencontrent et discutent, comme dans le bon vieux temps. Mais après tant d'années, ils ont toujours cette complicité particulière. L'entrepreneur se sent bien avec sa copine et ne se lasse jamais d'elle. Il s'aperçoit que ce qu'il éprouve pour elle est un peu plus que de l'amitié. Alors, il décide de lui avouer ses sentiments. Ainsi, il lui déclare : Liliane, j'ai quelque chose à te dire. En fait, quand on était enfant, j'avais des sentiments pour toi et je ne te l'ai jamais dit parce que tu étais plus âgé que moi et parce que tout simplement, je n'ai jamais eu le courage de te l'avouer auparavant. Maintenant, je me rends compte que ces sentiments n'ont pas changé. Au contraire, je suis plus amoureux de toi aujourd'hui qu'hier. Écoute, Christophe, répond Liliane. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Mais cela n'annule pas le fait que tu es marié. Il est impossible qu'on ait une relation tous les deux et ça, tu le sais parfaitement. « Oui, je sais, affirme-t-il. J'en suis conscient, mais il faut que tu saches qu'il n'y a plus rien qui m'unit avec Roselyne. C'était fini entre nous, bien avant que je te retrouve. Il y a quelques mois déjà que je pense au divorce. Maintenant, je suis décidé et je vais bientôt lui annoncer la nouvelle. » Malgré son statut familial, Christophe ne cache pas son amour pour Liliane. Il est tellement épris d'elle qu'il se confie à ses proches. Comme un adolescent, il jubile auprès de sa sœur aînée Maryse. « Ça y est, je découvre ce qu'est l'amour. Je veux vivre ma vie et c'est avec Liliane que je veux poursuivre ma route. » Pour sa part, Roselyne Lejar a bien remarqué que son époux n'est plus le même. Pendant longtemps, la pêche, lors des grandes marées en Bretagne, le bateau, le bricolage ont suffi à son bonheur. Mais depuis quelque temps, il suit une routine pour perdre du poids. Il soigne sa dentition et son look. Lui, qui ne se souciait guère de son apparence, hésite maintenant avant de choisir sa tenue de sortie. Il ne faut pas être clair pour comprendre. Christophe a une liaison. Elle le sait, mais elle l'accepte, tant qu'elle le tient en laisse. En échange de sa stabilité matérielle, elle ferme les yeux sur les infidélités de son mari. Il a beau la tromper, elle reste la femme de sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Les jours passent et Christophe manque de courage pour mettre sa femme au courant de ses intentions. De toute évidence, il compte la quitter, mais il craint sa réaction, en sachant que ce n'est pas une personne qui se laisse convaincre facilement. Lors d'un mariage auquel le couple Lejar est invité dans la Sarthe, Roselyne s'amuse à humilier son mari devant toutes les personnes présentes. Agacé, ce dernier perd son calme et lui hurle qu'il en a cassé d'elle, qu'il a longuement réfléchi et qu'il va sans tarder lancer la procédure de divorce. Alternant entre colère haineuse et crise de larmes, Roselyne Lejar rumine ce qu'elle qualifie de trahison jusqu'à l'obsession. Il n'a pas le droit de lui faire ce coup-là, elle qui a tout fait pour lui. D'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine de son ascension sociale. Cette annonce faite publiquement passe très mal et l'ancienne infirmière jure de se venger. D'abord, elle fait disparaître le nouveau matelas spécial d'eau endolorie de Christophe. Ensuite, elle vide le compte PEL qui comportait 30 000 euros. De nature fière et rancunière, Roselyne ne cache pas sa colère. Devant sa belle-mère, elle déclare « Je te promets que je vais le mettre à poil financièrement. Je vais avoir sa peau et son fric avec. Ce n'est pas ce connard qui va me faire tout perdre. Ce n'était qu'un clochard quand je l'ai trouvé. Et maintenant qu'il est patron, il veut se barrer avec tout. » Le couple est à la tête d'un patrimoine qui s'élève à 900 000 euros, dont la société, le mât de Rognona et une maison de Bretagne achetée en début d'année à Plouran, dans les Côtes d'Armor. Pour Roselyne, il est hors de question de brader sa part. Pendant une soirée, la radine, à pingrerie maladive, prend conseil auprès d'une connaissance du village nommée Sandrine. Celle-ci lui donne un coup de pouce afin de mener à bien son divorce. Entre deux verres, elle s'épanche en étanchant sa soif. « Je préfère le tuer que de partager avec lui. Mieux vaut être veuve que divorcée. »« Ce n'est quand même pas toi qui vas le descendre, » s'inquiète prudemment son ami, interloqué. « Non, » répond-elle. « Mais je suis prête à arpenter tous les bars d'Avignon, un à un, et à laisser mes cartes de visite sur les zincs pour recruter un tueur à gages. » Dans la demeure des Lejard, les disputes se multiplient et la tension entre les deux époux monte d'un cran. Elle est telle que l'homme devient très méfiant. Il est clairement effrayé par sa femme, car celle-ci ne rate aucune occasion pour proférer des menaces à son encontre. Chez lui, il ne boit que de l'eau du robinet par peur d'être empoisonné et dîne d'un plat réchauffé au micro-ondes dans son entreprise pour entrer au mât le plus tard possible. Pour éviter de la croiser, il part tôt le matin à son travail, passe le plus clair de son temps au bureau et enchaîne les heures supplémentaires. La nuit, quand il rentre chez lui, il s'enferme à clé pour dormir. D'ailleurs, en vue de cette situation invivable, Christophe prévoit de quitter le foyer conjugal à la fin du mois de novembre. Le 24 novembre 2010, l'aube est encore loin, lorsqu'une détonation claque vers 6h30. Réveillés par le bruit sourd et bref, les riverains sont intrigués. Dans ce territoire rural entre la Durance et les Alpilles, un coup de feu est plutôt inhabituel, même en période de chasse. À cette heure-ci, Christopher, le benjamin de Roselyne, s'apprête à sortir de la demeure familiale, mais il n'a rien entendu. Il écoute la radio. Une demi-heure plus tard, il monte dans son Opel garé devant la dépendance du mât. Aussitôt, il remarque qu'au niveau des boîtes aux lettres, la barrière verte est fermée. C'est bizarre. Depuis 8 ans, elle est toujours restée ouverte. Au bout du chemin qui rejoint la départementale, le jeune homme est stoppé par le véhicule de son père. Au milieu de l'allée, le 4x4 est immobile, son moteur est en marche et ses phares sont allumés. Près de celui-ci, Christophe est étendu sur le dos. Cela fait 1 heure qu'il a quitté le domicile pour se rendre à la menuiserie. A-t-il fait un malaise? En se rapprochant du corps, il constate que son père gît dans une mare de sang. Dans le mât, les hurlements du jeune homme alertent son demi-frère Romuald, qui accourt, puis repart réveiller sa mère. « Maman, viens vite, allez, vite !» intime-t-il à Roselyne. Elle se précipite vers la scène du crime, prend le pouls de son mari comme l'infirmière qu'elle était. « Non, ce n'est pas possible, » annonce-t-elle. En effet, Christophe Lejard a été atrocement assassiné d'une balle dans la tête. Alertés, les gendarmes arrivent précipitamment sur les lieux du crime, suivis d'une ambulance. Le corps est encore chômé, il n'a plus de pouls. On tente de le réanimer lorsqu'on découvre qu'on lui a éclaté le crâne et que son cerveau est éparpillé sur le sol. On fait alors appel à l'équipe scientifique qui examine le cadavre sur la scène de crime. Selon les premières constatations, le quinquagénaire a été abattu de sang-froid avec un fusil à très courte distance. Le tir à bout touchant a été porté si près que le coup a fait exploser sa boîte crânienne et lui a arraché toute l'arrière de la tête. L'homme est donc mort immédiatement. À ce qu'il paraît, il a été surpris par l'arrière et n'a pas eu le temps de se défendre, vu l'absence de traces de lutte. Autour de la voiture, les enquêteurs ramassent des mégots et un paquet de cigarettes vides. Personne ne fume dans cette famille. Ceci appartient certainement au tueur. Il réalise des prélèvements ADN, notamment sur le portail à la sortie de la propriété, puis transporte le corps à la morgue. Après avoir interrogé la famille de la victime, il conclut rapidement que l'entrepreneur est tombé dans un guet-apens. Celui qui a fermé la barrière voulait l'obliger à descendre de sa voiture pour le tuer, et vraisemblablement, il a réussi à le piéger. Autre constat, confirmé par ses proches, rien n'a été volé. Donc, on peut d'emblée écarter l'hypothèse d'une agression crapuleuse qui a mal tourné. D'après les voisins qui se connaissent très bien dans ce quartier, un jeune homme étranger se tenait sur sa moto devant le mât des Lejars à 5h45 du matin. Il est resté longtemps à épier la demeure. C'est forcément lui l'auteur du crime. Voici une piste qui mérite d'être étudiée, mais les recherches prennent beaucoup de temps, car nul ne peut donner plus de précisions, ni sur le motard, ni sur la moto qu'il conduisait. En attendant, les gendarmes poursuivent leur enquête de voisinage. On récolte alors les témoignages de l'entourage de Christophe Lejars pour connaître les différentes facettes de sa personnalité. On recherche à savoir qui pourrait l'envier au point de le tuer. Dans le cadre professionnel, Christophe est réputé pour être un patron exemplaire et sans histoire. Par conséquent, les gendarmes abandonnent la théorie de la vengeance professionnelle d'un client ou d'un employé de la prospère menuiserie industrielle. En revanche, ils apprennent très vite que le climat familial est à l'orage depuis l'été. Quelques jours avant la mort du mari, Roselyne Pinchot-Lejars a reçu une convocation à comparaître devant le juge des affaires familiales du tribunal de Tarascon. Le lendemain du meurtre, les militaires de la section de recherche chargée de l'enquête vont interroger Roselyne à l'hôpital, où elle a été admise à la suite de son état de choc après la découverte macabre. À la vue des enquêteurs, celle-ci lance en criant « Pourquoi ici ? Hé ! Pourquoi ici ? Pourquoi pas à son entreprise ?» La réaction de Madame Lejars attise la curiosité des agents qui l'interrogent. Intrigués, les enquêteurs demandent des explications. Aussitôt, Roselyne leur expose plusieurs théories selon lesquelles son époux a été tué par un homme de main et que son meurtre est incontestablement lié à son entreprise. Après vérification, il s'avère que la société de menuiserie est parfaitement saine. Il n'y a ni malversation, ni racket, ni autre problème financier comme elle l'a insinué. Les gendarmes se demandent alors pourquoi Roselyne Lejars les oriente vers de fausses pistes. Celle-ci invente des histoires qui ne tiennent pas debout, dont le seul but est de détourner l'attention des enquêteurs. Néanmoins, elle s'y prend très mal. Son problème, à Madame Lejars, c'est qu'elle ne joue pas assez bien le rôle de la veuve éplorée et elle n'est pas assez discrète quant à ses plans à venir. Ce même jour, elle demande à son fils Romuald d'appeler l'associé de la menuiserie. Celui-ci s'exécute. Il y a des parts de l'entreprise qui doivent être négociées et elle veut rapidement conclure un accord. Cette femme odieuse est si pressée de mettre l'héritage en vente qu'elle n'a même pas attendu que son défunt mari soit enterré. De surcroît, elle réclame immédiatement le versement de son capital d'essai, qui s'élève à un montant de 190 000 euros à la caisse de retraite du BTP. Du côté des enquêteurs, le doute plane de plus en plus sur cette veuve qui s'empresse d'encaisser l'argent de son conjoint récemment décédé. Son insouciance, sa froideur et sa désinvolture vis-à-vis de ces tristes circonstances les poussent à centrer leur attention sur elle. Elle est certainement le nœud de cette enquête, mais jusqu'à présent, on ne dispose d'aucune preuve contre elle pour la relier au crime. Le 2 décembre 2010, plus d'une centaine de personnes sont venues à l'église pour rendre le dernier hommage aux défunts, parmi lesquels les gendarmes. Cette fois encore, le comportement de Roselyne surprend tout le monde. Même le père Gabriel de la paroisse Saint-Jean d'Avignon trouve Madame Lejars très détendue et un peu trop joyeuse. Pendant la cérémonie funéraire, elle chuchote aux oreilles de ses amis, rit sans retenue et tient des propos pour le moins maladroits. « De toute façon, il me pourrissait la vie. Il n'a eu que ce qu'il méritait », confie-t-elle. Le lendemain de la cérémonie, les gendarmes, furieux, foncent vers le mât de la famille Lejars. Ils ont été avisés que Roselyne était en train de couper la haie et de démonter la barrière métallique pour s'en débarrasser. La scène de crime est en train d'être modifiée et toute preuve existante risque d'être perdue. À leur arrivée, les militaires de la section de recherche mettent la main sur la dite barrière et perquisitionnent la maison. Lors de la fouille, ils saisissent une énorme somme d'argent en espèces, cachée partout dans la demeure, et s'emparent de l'ordinateur. La femme révoltée manifeste son mécontentement aux agents et les accuse de lui avoir volé une bague de très grande valeur qu'elle va retrouver dans son portefeuille dans les jours suivants. À l'hôpital de la Timone à Marseille, l'autopsie du corps de Christophe Lejars est en cours. De nombreux plombs trouvés autour de la blessure au niveau de la nuque indiquent qu'une cartouche de chasse de calibre 12 a été utilisée pour causer la mort. L'ADN de la victime et l'ADN de quelqu'un qui ne figure pas dans la base de données FNAEG ont été détectés dans les échantillons d'ADN du portail. En revanche, il n'y a pas d'empreinte digitale utilisable dans la cendre de cigarette. Par ailleurs, l'ordinateur saisi dans la ferme familiale a parlé. En effet, Madame Lejars a effectué une recherche la veille des faits pour se documenter sur la procédure à suivre pour encaisser l'assurance-vie de son conjoint après sa mort. Cela ne peut pas être une coïncidence. D'ailleurs, elle vient d'empocher le capital d'essai de son mari, d'un montant de 188 809 euros, comme elle l'avait demandé. Ainsi, les autorités convoquent, un par un, les proches, les amis de la victime, ainsi que sa maîtresse, Liliane, d'une part pour les entendre, et d'autre part, pour comparer leur ADN à celui retrouvé sur la scène de crime. Les tests génétiques ne donnent rien, mais les témoignages s'avèrent très judicieux. Nombreux sont ceux qui déclarent soupçonner l'épouse d'avoir tué son mari. Il raconte que le regretté craignait sa femme. Il a confié à sa petite amie et à plusieurs collègues de travail qu'il craignait que celle-ci l'empoisonne, ou même qu'elle s'en prenne à lui physiquement. Quelques mois avant sa mort, il a entamé une procédure de divorce et il comptait quitter le foyer familial le week-end du 27 novembre 2010. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de déménager. Il a été cruellement abattu 3 jours avant. Interrogée une seconde fois, Roselyne donne une autre version aux enquêteurs. Pour ce qui est de la maîtresse, elle n'était pas au courant. Quant au divorce, l'initiative venait d'elle. Autant d'éléments que les gendarmes peuvent rapidement vérifier, grâce à des mails notamment, et ils découvrent ainsi que la veuve noire ment. Elle savait pour Liliane Berger. Alors, si elle ment à ce point, c'est qu'elle est mêlée au meurtre de son mari. Elle n'est pas l'auteur du coup de feu, car elle était dans la propriété à ce moment-là. Mais elle est liée à l'assassinat. L'étau se resserre autour de Madame Lejard. À présent, les enquêteurs focalisent leur attention sur elle. Il ne reste plus qu'à déterminer de quelle manière elle s'est prise pour en finir avec lui. Pour en savoir plus sur leurs échanges, Roselyne et ses deux fils, Romuald et Christopher, sont placés sur écoute. En parallèle, leurs relevés téléphoniques sont minutieusement épluchés. Cette démarche ingénieuse porte très vite ses fruits, car en examinant les communications de la famille Lejard, les gendarmes remarquent qu'un numéro de téléphone revient très souvent en appel entrant sur le téléphone fixe du domicile familial. C'est celui d'un artisan sableur, dénommé Christopher Munch, localisé dans le nord de la France, dans la ville de Nogent-le-Rotrou. Les choses deviennent plus claires quand on constate que le téléphone de Munch déclenche un autre relais, celui du Theil-sur-Huisne. Il s'agit de cette commune de l'Orne où vit actuellement le fils aîné de Roselyne Pinchot, Arnaud, l'enfant indésirable que la mère a volontairement délaissé. Auparavant, Arnaud Privat résidait à Nogent-le-Rotrou. D'ailleurs, Christopher Munch et lui se connaissent parfaitement. En fait, ils sont même les meilleurs amis du monde et ils étaient inséparables, justement, avant le meurtre de Christophe Lejard. Pour Christo, entre guillemets, comme aime l'appeler Arnaud, ce dernier n'est pas seulement un ami, c'est un frère de cœur. À Nogent-le-Rotrou, les deux hommes passaient leur journée à ferrailler et, la nuit tombée, ils buvaient en abondance et se droguaient beaucoup. Cocaïne, cannabis, héroïne, LSD, champignons, tout est bon pour oublier leur vie désespérément ratée. Victimes de familles divisées et de carences affectives, les deux hommes à la dérive sont connus pour être tous deux toxicomanes et délinquants. Pour sa part, Munch a fréquemment eu des embrouilles avec la police et a purgé des peines pour délits mineurs. Il a eu 3 condamnations dans le passé. Il est dépendant, instable et facilement influençable. De son côté, Arnaud Privat est toujours attaché à sa mère, même si celle-ci l'a abandonné pour préserver son mariage. Il se considère comme son protecteur et il est prêt à tout pour elle, mais elle ne se tourne vers lui que pour se défouler et déverser sa bile contre son époux. Chaque jour, elle lui téléphone pour lui raconter ses conflits conjugaux et lui faire part de ses déboires amoureux avec le beau-père qu'il a toujours détesté. Elle prétend craindre pour sa vie. Manipulatrice, elle joue avec ses sentiments en lui rappelant continuellement comment Christophe le maltraitait et l'enfermait dans l'auge à cochon pour le corriger. À chaque coup de fil, le fils oublié se sent ravagé et finit en pleurs. Son impuissance à sauver sa mère de son mariage destructif l'a-t-il poussé à supprimer sa source de problèmes? Cet intrus qui s'est immiscé dans leur vie et les a séparés à jamais? Peut-être bien. Mais quel est le lien entre Roselyne et le meilleur ami de son aîné? Pourquoi ont-ils eu plusieurs échanges téléphoniques qui se sont subitement interrompus? Bizarrement, le numéro de portable de Munch a été volontairement coupé entre le 22 et le 25 novembre, date qui correspond au moment des faits. On s'intéresse alors de près à lui, pour déterminer où il était pendant ces 3 jours. En approfondissant les recherches, on découvre que le 24 novembre 2010, à 16h17, sa carte bleue a servi dans un fast-food à Millau, dans l'Aveyron, un petit village sur le trajet entre Nogent-le-Rotrou et Rognonat. Maintenant, le lien entre le trio est établi. Munch a joué un rôle dans cette affaire. Les gendarmes y croient et désormais, Arnaud Privat et Christopher Munch rejoignent Roselyne sur la liste des suspects. Le 4 octobre 2011, les militaires de la section de recherche interpellent les trois suspects. Christopher à Nogent-le-Rotrou, Arnaud à Teille et Roselyne à Rognona. Tous en même temps. Lors de la perquisition du domicile de Munch, les gendarmes retrouvent un procès-verbal d'une contravention qui a été éditée et délivrée à l'intéressé le 23 novembre 2011, à Montluçon sur la route de Rognona. Il n'y a plus aucun doute, cet homme a participé à l'assassinat. Immédiatement après son arrestation, les autorités prélèvent son ADN et l'envoient de toute urgence au laboratoire, afin de le comparer à celui qui a été retrouvé sur la barrière verte. En attendant, ils le placent en garde à vue et l'interrogatoire commence. Avant tout, on lui demande « Vous êtes-vous rendu dans le sud de la France entre le 23 et le 25 novembre 2010 ?»« Non, » répond-il fermement. « Et cette contravention qui date du 23 novembre, comment vous l'expliquez ?»« Maintenant que vous le dites, je me rappelle que je me suis rendu en Andorre pour acheter des cigarettes. C'est là où j'ai été verbalisé et ma 306 a été remorquée. J'ai payé le PV sur place. » Le jeune homme n'a pas l'intention de coopérer. Il se montre très évasif, se trompe sur les dates et ne se rappelle pas avec qui il était. De l'autre côté, les enquêteurs tentent leur chance avec Arnaud Privat en lui demandant « Savez-vous si Christopher Munch se trouvait sur Rognona le 23 novembre 2010 ?»« Ce serait une pure coïncidence, » s'étonne Privat. « Nous pensons que votre mère s'est payée les services de votre ami pour tuer votre beau-père. Qu'est-ce que vous en dites ?»« Vous êtes parti dans un délire dingue, » réplique-t-il. « Pour moi, ce n'est pas possible. Vous m'avancez que ma mère et mon meilleur pote sont impliqués dans l'assassinat de mon beau-père. Personnellement, je n'y crois pas. » À la gendarmerie de Rognona, Roselyne Pinchot-Lejard est longuement entendue. On l'interroge sur son emploi du temps de la veille du drame et elle explique qu'elle a rempli les papiers de la demande de divorce, qu'elle a travaillé très tard jusqu'à 23h et qu'elle n'a pas vu son mari quand il est rentré, étant donné qu'il faisait chambre à part. Quand les enquêteurs lui indiquent la raison de son interpellation, elle dit qu'elle aimait son époux et nie avoir un lien quelconque avec sa mort atroce. Le 5 octobre 2011, cela fait plus de 24 heures que les trois suspects sont en détention provisoire. Ils continuent à nier toute accusation et restent sur leur position. Toutefois, les résultats des tests ADN de Christopher Munch changent la donne. Son empreinte est identique à l'ADN inconnu retrouvé sur le loquet de la barrière. À 22 heures passées, ils auditionnent le jeune homme pour la 7e fois. Celui-ci est tenu de fournir des explications sur l'existence de cet ADN sur la scène de crime. En présence de son avocat, enfin, il avoue. Courant octobre, j'ai été contacté par Madame Lejard. Elle m'a parlé des problèmes dans son couple et connaissant mes difficultés financières, elle m'a demandé de lui rendre un service contre de l'argent. Le service consistait à me rendre à Rognona dans la dernière semaine de novembre, sans préciser la date, pour bloquer l'accès du chemin de la ferme, sur la route de Montagnette, avec la barrière que vous m'avez fait voir tout à l'heure en photo. Je devais d'abord m'assurer que le 4x4 de Monsieur Lejard se trouvait dans la propriété. Cela voulait dire qu'il était présent. Si ce n'était pas le cas, je devais réitérer l'opération le lendemain ou le surlendemain. Je suis arrivé dans la nuit du 23 au 24 novembre, et une fois que j'ai mis la barrière en place, j'ai quitté les lieux. Je suis reparti la nuit même. On m'a dit que cela servirait à tabasser Monsieur Lejard pour lui donner une bonne correction. Je n'ai jamais imaginé qu'en faisant cela, j'allais participer à l'assassinat de cet homme. Combien vous a-t-elle payé pour cette mission ? 15 000 euros. Parcourir les 1600 kilomètres qui le séparent du MAD et Lejard uniquement pour fermer le portail, c'est insensé, surtout à un prix si important. Il est clair que Christopher Munch ne dit pas toute la vérité, mais au moins, sa langue commence à se dénouer et ses aveux serviront à mettre la pression aux autres complices. Confrontée à ces nouvelles déclarations, Roselyne Lejard a des difficultés pour reconnaître son crime. Mais pour finir, elle se livre et confesse ses actes. « Il est temps de parler, Madame Lejard !» s'écrie le gendarme. « J'aimais mon mari, » répond-elle à mi-voix. « C'était un coup de folie. Consentez-nous à nous dire la vérité sur la mort de votre mari ?»« Ce n'est pas moi, » rétorque la femme abattue. Je ne pouvais pas le voir partir et détruire tout ce qu'on a construit. Il voulait découcher, je ne pouvais pas l'admettre. Je me suis saigné toute ma vie pour lui, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il ait une vie financière confortable. C'est dur de voir toute sa vie partir en éclats. Et donc ? Donc j'ai demandé de l'aide. À qui ? À Monsieur Christo Munch. Vous lui avez demandé quoi ? Je lui ai demandé s'il pouvait tuer mon mari. Et qu'a-t-il répondu ? Oui. Et ensuite, que je le laisserai libre d'agir. Vous vous êtes entendu sur le prix, sur le déroulement ? Il a demandé 15 000 euros, mais je ne savais ni où ni quand. Et ça s'est passé où?
À Teille.
Vers quelle période?
Fin octobre, j'ai passé une semaine là-bas, mais ce n'était que des paroles en l'air, sur le coup de la colère. Je ne pensais pas qu'il allait le faire, il a réalisé un crime que je n'ai pas commandité.
Mais vous l'avez payé pourtant.
Oui, en plusieurs fois.
Et votre fils Arnaud, quand intervient-il?
Non, Arnaud n'a rien à voir avec ça, c'était entre moi et Christo.
Les versions de Roselyne et Christopher, malgré leurs divergences, convergent sur un seul point. Arnaud Privat est totalement étranger à cette combine. En apprenant que sa mère et son meilleur ami ont tout pris à leur compte et l'ont disculpé, il s'effondre en larmes, demande de mettre fin à l'audition et de sortir de la pièce pour fumer. C'est l'effet d'un soulagement ou celui d'une tristesse? Les militaires, eux, trouvent sa réaction étrange. À la fin de la garde à vue, les trois comparses comparaissent devant la juge d'instruction au palais de justice d'Aix-en-Provence. Les deux premiers sont envoyés en prison et mis en examen pour complicité d'assassinat. Quant à Privat, il a été prouvé qu'au moment des faits, il était chez lui en Normandie. Il est donc immédiatement relâché sans même un contrôle judiciaire, libre comme l'air. Le 13 décembre 2011, plus d'un an après le meurtre, un homme du nom de David appelle les gendarmes pour faire une déclaration. Il est le nouveau compagnon de Valérie, l'ex-petite amie d'Arnaud Privat, celle avec laquelle il a eu son premier enfant, et il est très inquiet. Depuis décembre 2010, trois jours seulement après l'assassinat de Christophe Lejard, Arnaud a mis son ex-compagne dans la confidence. Il lui a confié qu'il a servi d'intermédiaire entre son copain et sa mère dans l'assassinat de son beau-père. Valérie n'a pas pu dévoiler le secret aux autorités, de peur que celui-ci s'en prenne à elle ou à leur fils. C'est pour cette raison qu'elle a gardé le silence pendant tout ce temps. Maintenant, elle ne peut plus se taire, car Arnaud les menace à nouveau. Et cette fois, sa cible est son nouveau compagnon, David. Au cours d'un appel téléphonique, le fils de Roselyne, enivré, s'écrie. « Tu vas prendre la même! C'est ce qui est arrivé à mon beau-père! Il s'est pris une balle en pleine tête! Eh bien, je vais t'en mettre une avant demain matin !» L'affaire prend un nouveau tournant. Celui qui a été totalement acquitté revient dans les rangs des suspects. Certes, les témoignages de Valérie et de David sont très détaillés, mais ils ne suffisent pas pour le mettre en accusation. Alors, les gendarmes vont lui tendre un piège. Ils savent que Christopher Munch est en possession d'un téléphone portable avec lequel il communique souvent avec son ami, ce qui est illégal en prison. Au lieu de le lui confisquer, ils le placent sur écoute. Après plusieurs conversations téléphoniques, sans intérêt, le stratagème réussit et l'une d'entre elles va enfin le trahir. Le 22 janvier 2012, à 17h, Christopher dit à son ami « Il y a un avocat qui est allé voir le dossier, il est revenu me voir et il m'a dit que ta mère me charge à bloc en fait. Par contre, elle ne parle pas de toi. »«
Oui, » répond Arnaud.
« Et moi, elle me charge à mort.
Moi, je suis au milieu, mais bon, j'ai...
En fait, tu aurais dû l'être. Ta mère a commandité, toi tu as recruté et puis moi, j'ai exécuté. » À la suite de cette discussion, Arnaud Privat est arrêté et auditionné à nouveau. Il avoue tout et ne dissimule aucun détail. Pendant des mois, il a été harcelé d'appels par sa mère pour trouver quelqu'un afin d'éliminer son mari infidèle et ingrat. Il était profondément affecté par l'hystérie de sa mère au point de ne plus supporter la pression qu'elle lui mettait. Christopher Munch, dans son rapport fusionnel avec Arnaud, s'est dévoué pour soulager la détresse de son meilleur ami. Tous les deux sont malheureusement tombés dans le piège du chantage affectif. Très vite, les deux copains conçoivent un plan établi essentiellement par Arnaud lui-même pour un crime parfait. Pour commencer, ce dernier achète le fusil et les cartouches ainsi que la moto pour se rendre chez les Lejard. Ensuite, il fait un plan de la propriété à Christo pour l'aider à mieux connaître les lieux et repérer facilement le véhicule de la victime. En plus, il lui trace l'itinéraire à emprunter depuis la Normandie jusqu'à la ferme familiale en esquivant les autoroutes pour ne pas être repéré par les radars et ne pas laisser de traces de son passage au péage. Pour finir, il lui demande de laisser son portable éteint jusqu'à son retour, pour lui éviter ainsi d'être borné pendant son voyage. Or, pendant l'exécution du plan, Munch se trompe à trois reprises. Une fois quand il est flashé par un radar pour excès de vitesse aux environs de Montluçon, une autre fois quand il contamine ses gants avec son ADN, et une dernière fois sur le chemin du retour, lorsqu'il achète un café à 1,10€ avec sa carte bleue à Millau. À présent, le scénario du complot meurtrier est complet. Le trio est confondu et les rôles attribués à chacun sont assez clairs pour les enquêteurs. En fin de compte, les autorités ont pu remonter jusqu'aux trois complices, la commanditaire, l'intermédiaire et le tueur à gages, qui attendent leur procès en détention. Folle furieuse, Roselyne commence à cultiver un désir de vengeance envers son homme de main.
Du fond de la cellule 513 à la prison de Nîmes, elle rumine. Elle va perdre tout l'argent qu'elle a hérité, qui sera rendu au parti civil. Et, pour comble de malheur, elle devra dédommager la maîtresse de son mari. Tout cela à cause des erreurs commises par Christopher Munch. La femme vénale, narcissique, perverse, n'accepte pas sa défaite et décide de déverser sa colère sur celui qu'elle considère comme le seul responsable de l'échec de la mission. Auparavant, il lui a bien servi de bras armé, mais son manque d'efficacité les a tous conduits derrière les barreaux. Aujourd'hui, c'est un témoin très gênant. En revanche, si le jeune Nogentais venait à disparaître en prison, toutes les charges contre elle et son fils s'effondreraient. Plus de cristaux, plus de problèmes. Sans compter que sa mort pourrait être mise sur le compte d'une rivalité entre prisonniers. En janvier 2013, Roselyne profite d'une partie de cartes pour partager ses intentions meurtrières avec ses co-détenus au quartier des femmes. Elle veut faire assassiner Christopher Munch et elle met un contrat de 8000 euros sur sa tête. Pour réussir son coup, elle suggère de recourir à une équipe de Corses. Ces gitans finissent toujours le travail avec perfection et ne laissent aucune trace derrière eux. Toutefois, à nouveau, Roselyne ne choisit pas les bonnes confidentes. En mars 2013, les gendarmes reçoivent un appel d'une ex-prisonnière qui leur rapporte qu'elle a été chargée par Roselyne d'organiser le meurtre de Munch contre de l'argent. Avec le même mode opératoire, toujours aussi déterminé, cette femme diabolique est prête à tuer pour arriver à ses fins. Or, cette fois, son plan tombe à l'eau. En juin 2016, dans le box des accusés, les trois protagonistes comparaissent devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Roselyne Pinchot-Lejar, les traits livides et marqués, ne reconnaît qu'à moitié sa complicité dans l'assassinat qu'elle a commandité. À l'ouverture du procès, elle lance rapidement. « Vu la confusion qui était la mienne à cette époque-là, je préfère me déclarer coupable. » Avec un physique d'étudiant à lunettes, Christopher Munch n'a pas le profil du tueur à gages sans remords. Tel un gamin perdu, il promène un regard accablé et déclare d'une voix affirmée « Je reconnais être l'auteur de l'assassinat de Christophe Lejar dans la nuit du 23 au 24 novembre 2010. » Comment quelqu'un, comme vous, peut un jour appuyer sur la détente ? Lui demande le président, Jean-Luc Tournier. « Pas pour l'argent, non. Mais par amitié pour Arnaud, rétorque l'accusé. » Assis à côté de sa mère, qui ne le regarde pas, Arnaud Privat, perdu dans un gros pull crème, s'empresse de présenter ses excuses à la famille de la victime. Les yeux rivés au sol, il dit « Je reconnais ma culpabilité, c'est moi qui ai demandé à Christopher de le tuer, de prendre contact avec ma mère pour cela, et j'en suis vraiment désolé. » Au cours de ce procès, l'ex-infirmière est décrite comme froide, cupide et manipulatrice, selon plusieurs experts qui l'ont examinée. Appelé à la barre, le prêtre qui a célébré les obsèques de son époux n'a pas manqué de la trouver pour le moins détachée par son décès, alors qu'elle avait vécu près de 30 ans avec lui. En s'adressant à la cour, l'avocat général dépeint une veuve noire motivée uniquement par l'argent. Selon lui, si elle a tué son mari, c'est pour éviter le partage du patrimoine en cas de divorce, qui, en l'occurrence, a été demandé par son défunt époux. Il requiert alors une peine d'emprisonnement de 30 ans pour Roselyne Pinchot, de 20 ans pour son fils Arnaud Privat et de 25 ans pour le tireur Christopher Munch. Dans son réquisitoire, le juge d'instruction Marc Rivet résume la triangulation des rôles. « La mise à mort de Christophe Lejar ne doit rien au hasard. Elle a été résolument souhaitée, abondamment évoquée, méthodiquement organisée. Elle est le produit de l'absurde conjugaison de la haine de Roselyne Pinchot, de la veulerie d'Arnaud Privat et de la désinvolture criminelle de Christopher Munch. » Après délibération, les jurés déclarent les trois accusés coupables des faits avec préméditation. Ainsi, le juge prononce le verdict. Roselyne Pinchot, 62 ans, est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Christopher Munch, 30 ans, est condamné à 20 ans. Et Arnaud Privat, 38 ans, à 15 ans d'emprisonnement. Les peines prononcées à l'encontre des trois personnes directement impliquées dans cette affaire sont en définitive plus clémentes que celles requises par l'avocate général. Mais la famille de la victime est satisfaite. Christophe Lejar peut enfin reposer en paix. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.